Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Écoutez Radion, il est 11h passé de quelques minutes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec notre invitée que je vous présente sans tarder, Marie-Thérèse Mutin. Bonjour.
Bonjour Yannick.
Marie-Thérèse Mutin, je suis heureux de vous retrouver. Je crois que la dernière fois que vous vous êtes trouvée devant le micro de Wagon Livre, ce devait être il y a 4 ans en arrière, nous avions parlé de l'agonie du Parti Socialiste, un parti politique que vous connaissez bien, puisque vous en avez été une grande militante. Mais indirectement, aujourd'hui, on parlera un petit peu de politique aussi, parce que votre dernier roman intitulé 1789, Ainsi vont les rêves, revient sur cette effervescence politique, idéologique, ce moment où le peuple français a pris un peu en main son destin. C'est un roman donc paru à la fin de l'année 2019.
C'est ça, voilà, à la fin de l'année.
Aux éditions Mutine, maison d'édition associative que vous avez créée il y a 25 ans.
Voilà,
c'était en 1995.
Oui.
Je vous présente maintenant, si vous le permettez, Marie-Thérèse Mutin. Vous êtes née en 1939, en Côte d'Or, dans le village de Cessé-sur-Tie, village d'ailleurs dont vous avez été maire de 74 à 95, plus de 20 ans.
21 ans,
à la tête de cette commune de Côte d'Or. Alors, vous avez été institutrice, vous avez adhéré au Parti Socialiste en 1971, vous avez été responsable de la Fédération de Côte d'Or du Parti Socialiste de 79 à 98.
Et vous avez... 77, responsable de la Côte d'Or de 77 à 90.
Voilà. Et vous avez succédé à Pierre Palot.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Et vous avez bien sûr connu la montée en puissance de ce parti qui a vu, devons-nous le rappeler, l'élection de François Mitterrand en mai 1981. Alors aujourd'hui, vous êtes retirée de la vie politique. Vous avez été aussi conseillère régionale de Bourgogne, un temps députée européen.
C'est ça.
Et puis vous avez été exclue du Parti Socialiste. Vous êtes aujourd'hui en Bourgogne une figure militante de la culture et de l'édition à travers donc les éditions Mutine que vous animez toujours avec ferveur et enthousiasme, je l'ai constaté, depuis un quart de siècle. Alors, voilà. 1789, Ainsi vont les rêves, vous renouez avec la fiction, mais surtout avec l'histoire.
Oui, je renoue avec l'histoire. Oui, j'avais commis il y a 30 ans... Avec Catherine de Châteauneuf sur l'histoire du Moyen-Âge, que j'aime beaucoup, le Moyen-Âge. Mais là, plus, comme vous le disiez tout à l'heure, plus politique, puisque c'est les débuts de la Révolution de 1789, mais vu dans notre région, c'est-à-dire entre Cessé-sur-Tie, puisque j'ai fait une famille fictive de Cessé-sur-Tie en 1789, Et à Dijon, puisque à Dijon, pour montrer que la Révolution, elle ne se fait pas qu'à Paris. La Révolution de 1789, elle touche l'ensemble de la France et des villages, avec évidemment les cahiers de doléances dont on a reparlé au moment des Gilets jaunes. Là. Et donc, il y a eu toute une histoire à Dijon aussi, que moi je ne connaissais pratiquement pas, hein, et que j'ai découvert à propos de ce livre-là.
Alors soyons bien précis, la famille Moissonnier qui est au cœur de votre roman historique est une famille inventée.
Oui, la famille est fictive. Et tout ce qui peut lui arriver est historique, hein, parce que ça aurait pu lui arriver, ça forcément c'est arrivé à des familles, mais là j'ai fait une famille fictive parce que bon, dans le village, hein, si je mets une vraie famille, d'abord je ne sais pas s'il y a eu des révolutionnaires, je sais qu'il y a eu un cahier de doléances à Cessé, hein, puisque je l'ai retrouvé, mais je ne sais pas s'il y a eu des gens qui ont fait la révolution, donc ils auraient pu, mais voilà.
Alors je suppose que la militante socialiste que vous fûtes, j'utilise délibérément le passé simple, parce que vous n'êtes plus militante socialiste.
Je suis militante, je suis toujours militante socialiste, mais je ne suis plus au Parti socialiste, parce que ce n'est plus tellement au Parti socialiste qu'on trouve des socialistes, si vous voyez ce que je veux dire.
Alors justement, cet esprit de 1789 que nous allons évoquer avec et grâce à vous aujourd'hui, est-ce qu'il est encore très présent ?
Oui.
Certes, dans les milieux cultivés, intellectuels, les historiens, mais est-ce que le peuple français, dont je fais partie, est-ce que nous n'avons pas tendance à oublier un peu les acquis de cette révolution bourgeoise de 1789 ?
La révolution bourgeoise, mais qui a été faite à partir notamment des paysans, hein, au moment des cahiers de doléances. Et d'ailleurs, on a retrouvé ce terme-là au moment des gilets jaunes, hein, puisqu'ils ont refait des cahiers de doléances qui n'avaient pas la teneur de ceux de 1789 ou 88. Mais il y avait une effervescence parce que les gens étaient beaucoup plus misérables qu'on ne peut l'être à l'heure actuelle, hein, avec des épidémies, avec... ça tombe comme ça, mais avec une énorme misère parce que les gens n'avaient même pas à manger. Hein, pour certains, c'était la famine. Et donc, il y a eu toute une effervescence à partir de cette idée des états généraux et des cahiers de doléances.
Les hommes politiques, qu'ils soient à droite ou à gauche, utilisent parfois l'adjectif patriote. Il en est beaucoup question, là,
oui,
les patriotes de 1789. Qu'est-ce qu'il reste de l'esprit de 1789 dans la vie politique française ? Grande question.
C'est une grande question, oui. Je pense que c'est quand même... Même si on n'a pas en tête toutes ces dates-là, on a quand même les grandes idées de la Révolution, hein, la République déjà, hein, parce que la République, elle a été quand même en 1792, hein, au moment de la bataille de Valmy, où effectivement, et puis il y a eu l'abolition des privilèges, qu'on a tendance d'ailleurs à idéaliser maintenant, parce que l'abolition des privilèges, cette fameuse nuit du 4 août, où la noblesse se prive de ses privilèges, en réalité, il fallait racheter les privilèges des nobles, hein, pour les avoir. Ils n'ont pas comme ça donné leurs terres et tous leurs privilèges aux paysans. Mais il n'empêche quand même que c'est une date symbolique qui reste dans l'esprit des Français, je pense. Et puis il y a la fameuse devise, hein, liberté, égalité, fraternité, qu'on doit à cette époque-là et qui reste quand même extrêmement présente chez nous.
Alors on sait que lorsqu'éclate en 1917 la révolution russe, elle puisera certaines de ses énergies, de ses sources dans la Révolution française de 1789, mais aussi 1793.
Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a eu une constitution en 1793 qui n'a jamais été appliquée, malheureusement, mais qui était vraiment quelque chose d'extraordinaire, quoi, avec des droits accordés dont on rêve à l'heure actuelle, quoi. Le droit à l'insurrection, par exemple, ou le droit, enfin voilà, hein, des choses comme ça, et qu'on n'a pas retrouvé après, mais qui n'a pas, malheureusement pas été mise en pratique, puisque Robespierre a disparu, puisque c'était lui qui en était l'initiateur et qu'il a été guillotiné. Donc voilà, mais bon, il y a toute la partie sombre, hein, de la Révolution aussi, hein. Il n'y a pas que des moments joyeux, hein. Et c'est pour ça que ça s'appelle aussi ainsi « Vont les rêves hein. ». Mon titre est évocateur à ce niveau-là, quoi. Moi, j'ai fait dans la famille le jeune Guillaume, puisqu'il s'appelle Guillaume Moissonnier, qui est d'une famille de paysans avancés, et sachant lire et écrire, ce qui n'était pas le cas de beaucoup à cette époque. Et j'en ai fait un militant très enthousiaste et très... Et du coup, son enthousiasme fait qu'il a aussi beaucoup de désillusions. Quand il arrive à Valmy, parce qu'il a vu la patrie est en danger, et là, tout de suite, il a pris les armes pour aller se battre. Et quand il arrive à Valmy, c'est le moment où Lafayette, le fameux général qui incarnait la liberté pour toutes, venait de trahir et de passer à l'étranger. Donc ça, pour mon héros, c'est la première des grandes désillusions qu'il aura.
Alors, arrêtons-nous justement sur votre jeune héros, Guillaume Moissonnier. Il a 18 ans, 19 ans, 1789. Vous l'avez bien précisé, c'est important de le souligner, il vient d'une famille pauvre, mais instruite. Voilà. Lui sait lire, ce qui est loin d'être le cas de la grande majorité des citoyennes et citoyens de 1789. Alors, il est originaire de Cessé-sur-Tille. Et votre roman historique débute par, j'allais dire, une réplique provinciale de la prise de la Bastille.
Oui, j'ai moi-même été très étonnée de voir, en regardant les livres d'histoire à ce moment-là, que la révolution à Dijon a été commencée le 15 juillet par la prise du château de Dijon, qui s'élevait à ce moment-là, où est la poste Grangier, là, un château très important, où les révoltés, les révolutionnaires, allaient chercher des armes, c'est-à-dire la même problématique que la prise de la Bastille à Paris. Seulement, au 15 juillet, à Dijon, on ne savait pas, il n'y avait pas de SMS, on ne savait pas que la Bastille avait été prise à Paris pour chercher des armes. Donc ça veut bien dire qu'à cette époque-là, l'esprit révolutionnaire était partout, quoi. Il n'était pas seulement à Paris, mais il était dans toutes les villes, dans tout le territoire, quoi.
Et c'est en cela aussi que votre roman historique est passionnant, parce que vous y distillez un grand nombre d'informations. Et donc au château à Dijon, ce château, cette prison d'État, puisqu'en fait c'est un peu symbole de l'absolutisme royal, lettres de cachet où on enfermait très aisément quelqu'un. Eh bien, au château de Dijon fut emprisonné Mirabeau.
Il fut emprisonné là. Enfin, bon, un emprisonnement assez cool, comme on dirait maintenant, hein, parce qu'il avait le droit de sortir quand même. Bon, il avait quand même les moyens. Hein. Mirabeau, il n'était pas un miséreux. Hein. Et donc, mais il a été emprisonné effectivement au château de Dijon, oui.
Alors, notre héros, votre héros, Guillaume Moissonnier, il y a un héritage familial à la fois de l'instruction. C'est une famille qui est pétrie par l'esprit des Lumières, hein, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, et j'en oublie, ils sont assez nombreux. Il faut, je pense, rappeler qu'il n'y a pas de 1789 sans l'esprit des Lumières.
Ah oui, bien sûr. Le fait que cette famille pauvre, de paysans pauvres, sache lire, je l'ai expliqué d'une façon qui est plausible, à mon avis, c'est que l'église de Cessé-sur-Tille appartenait aux moignes de l'abbaye de Saint-Bénigne à Dijon. Et ils avaient le presbytère, qu'on appelait, donc une maison où ils venaient de temps en temps pour se reposer. Donc j'ai imaginé qu'un vieux moine est resté là constamment et que c'est lui qui a appris à lire aux deux enfants des Moissonniers. Au père d'ailleurs, au père de Guillaume et à sa tante. Parce que les enfants allaient avec la maman faire le ménage chez ce vieux moine et ils étaient omnubilés par les livres et par le fait que le vieux moine écrivait et ils étaient en adoration là-devant, et donc le vieux moine leur a appris à lire, ce qui pouvait être très, très, très vraisemblable, je veux dire, puisqu'à cette époque, en plus, c'est souvent le clergé qui apprenait, qui avait en charge l'instruction, donc ça, c'est plausible, quoi.
Le père de votre jeune héros, héros idéaliste, impulsif, qui aussi fait preuve d'un grand courage et qui va connaître une évolution sociale, on aura l'occasion d'en parler, parce qu'il sait écrire et lire, deux atouts essentiels. Mais enfin, il a aussi un courage physique au combat, puisque le retrouve lors de cette
bataille de Valmy,
qui est une épopée pour la France de la Révolution.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Alors, Marie-Thérèse Mutin, on va marquer, si vous nous le permettez, une première pause musicale. Je rappelle que vous êtes notre invité aujourd'hui sur Radion jusqu'à midi pour votre dernier roman, qui a pour titre 1789, Ainsi vont les rêves, disponible aux éditions Mutine. Donc pour se le procurer, on utilise l'outil internet, édition Mutine ou blog édition Mutine. On peut commander le livre par internet. Nous revenons dans une poignée de minutes, le temps d'un premier intermède musical.
Da 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 da
Wagon Livre, votre émission littéraire.
1789, Ainsi vont les rêves, c'est le titre du dernier roman de notre invitée, Marie-Thérèse Mutin, qui est aujourd'hui devant notre micro et en notre compagnie jusqu'à midi. 1789, vous l'avez rappelé, Marie-Thérèse Mutin, il y a eu effectivement la fameuse convocation des États généraux à Paris, États généraux qui ne s'étaient pas réunis d'ailleurs depuis 1614, dans un royaume de France en proie à la disette, à la famine, une insécurité, hein, des brigands et une France un peu haineuse aussi, pas tellement à l'égard de son roi, mais surtout de la figure de Marie-Antoinette.
Ah oui, bien sûr, oui. Oui, le roi Louis XVI n'est pas un aussi mauvais roi qu'on pourrait le croire, d'ailleurs, parce que c'est lui qui instaure les états généraux, c'est lui qui demande les cahiers de doléances, donc il a... Bon, mais il est roi, quoi. Il est roi de droit divin, donc sa philosophie n'est pas celle des paysans, forcément. Mais c'est vrai que Marie-Antoinette a vraiment cristallisé la haine des gens, quoi. Comme on pourrait le voir à l'heure actuelle avec la haine de la police, quoi, qui c'est à peu près aussi irrationnel que maintenant, quoi.
Il faut dire aussi que la jolie reine a peut-être le défaut d'avoir des origines autrichiennes.
Oui, bien sûr, oui. Mais enfin bon, à cette époque-là, hein, c'était quand même les rois et les reines. Hein, les enfants de rois et de reines n'étaient pas gâtés au point de vue des sentiments, hein, parce qu'on ne leur demandait pas leur avis pour les marier. Hein.
Précédemment, au début de notre émission, vous nous avez expliqué donc le soulèvement populaire à Dijon, où on attaque le château, on attaque aussi le bastion Saint-Nicolas. Vous nous faites vivre effectivement cette révolution, la liesse populaire. C'est le 1789 heureux, je le disais dans l'introduction, d'un peuple qui prend son destin en main, qui chante la Carmagnole. Mmh. On est loin des débordements et de la volonté de se débarrasser du roi en 1789.
Ah ben bien sûr, oui. Non, là, c'est pas le sujet, si j'ose dire, hein, mais c'est après que ça vient, quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une haine du roi, hein. Il y a pas une... Même dans les cahiers de doléances, on trouve toujours un salut au roi. Voilà. Et donc là, on n'en est pas là. Hein. En 1780, au 14 juillet, on n'en est pas à vouloir complètement... Le roi, il s'est lui-même mis en état de révolution, si j'ose dire, quand il a fui.
La fameuse fuite à Varennes.
Ben oui, la lamentable fuite à Varennes. Voilà, oui, c'est là qu'on a commencé à le haïr, du coup.
À la mi-juillet 1789, dans votre roman, vous parlez du Parlement de Dijon, et il est aussi question, à Dijon, d'un comité permanent de 32 membres élus. Ça veut dire qu'il y avait un maire à Dijon en 1789, ou comment s'organise politiquement
la France ? En 1789, oui, il y avait un maire, mais là c'est la prise du château de Dijon qui fait qu'il y a une révolution et qu'il crée, que les révolutionnaires, les chefs de la révolution à Dijon, créent cette commission permanente. Ils la créent à ce moment-là, hein, et donc ils prennent les choses en main, quoi, parce que L'échevin s'est sauvé, lui, quand au moment où on a pris le château, il est parti. Celui qui était destiné à s'occuper de la ville, quoi, il a fui parce qu'il a eu peur de la révolution. Et donc, ils ont créé une commission pour diriger la ville.
Alors, puisque vous avez ancré ce roman, au début en tout cas, dans la province, Cessé-sur-Tille, Dijon, ensuite il y a le Paris révolutionnaire aux côtés de Guillaume qui rencontre bien sûr une jolie modiste. Je ne raconte pas trop, mais...
Ah, il faut en parler de la jolie modiste. Alors, parce que il faut parler de l'Assemblée des femmes. Parce que c'est très important, enfin pour moi surtout, hein, parce que là, il y avait des Il s'est créé des assemblées d'élus, des amis des assemblées. Qu'est-ce que je raconte ? Des assemblées, des amis de la Constitution. Et il y a eu des assemblées des amis, eux, de la Constitution. Et la jeune modiste, là, qui deviendra l'épouse de Guillaume, est militante dans l'Assemblée des élus de la Constitution. Et à cette époque-là, les femmes avaient un rôle politique important. Elles ne faisaient pas la guerre, hein, elles n'allaient pas à la guerre, elles n'est pas allées à Valmy, mais elles aidaient beaucoup les femmes des soldats qui étaient partis. Elles avaient un rôle d'assistance sociale, d'entraide et tout, oui. Au moment où il y a eu la coupure avec le clergé, les bonnes sœurs qui s'occupaient des hôpitaux n'ont plus voulu s'en occuper, enfin on leur a interdit, et donc c'est les femmes des assemblées des élus de la Constitution qui sont venues s'occuper des malades, quoi. Donc elles avaient une importance capitale. Et je dis que c'est important parce que, justement, après, quand Guillaume sera revenu de Valmy et tout, à un moment donné, il arrive chez lui et il est fou furieux parce qu'il vient de lire un décret de l'Assemblée
constituante, je crois.
Non, c'est pas la constituante, c'est de la convention, à ce moment-là, en 93, qui interdit les assemblées de femmes. Et ça le révolte énormément, parce que lui, il est pour l'égalité homme-femme, il est pour l'égalité, Guillaume. Hein. Il n'y a pas d'histoire de sexe ni rien. Lui, pour lui, c'est l'égalité, quoi. Et donc, ça le met dans une colère folle.
Il est vrai que la révolution qui se voulait libératrice et émancipatrice s'est tout de même montrée fort timide dans l'affirmation du droit des femmes.
Ah, mais
en
non.
dépit des combats de, je pense, à Anne Terroigne de Méricourt, à Olympe de Gouges, ou même Madame Roland, qui était compagne de Tallien et qui finira sous l'échafaud.
C'est pour ça. Moi, j'ai moi-même été étonnée, d'abord, parce que je ne savais pas qu'il y avait des assemblées de femmes pendant la Révolution. Hein, il n'y avait pas qu'à Dijon, hein, il y en avait partout. Et ensuite de ça, le fait que ce soit la Convention avec Robespierre qui supprime ce droit aux femmes, c'est vrai que ça surprend, quoi. Mais bon, en même temps, Rousseau, qui était un philosophe des Lumières, était très antiféministe, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc voilà, quoi.
D'ailleurs, effectivement, il y a cette... vous le citez, Rousseau. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'Émile ou la Nouvelle Héloïse. C'est à la page 130, précisément, de votre roman, dont je rappelle le titre, 1789, « Ainsi vont les rêves ». C'est un de vos personnages qui cite Rousseau.
C'est Anne, la présidente de l'association des...
Et donc elle lit un extrait d'un ouvrage de Rousseau. Et voici l'extrait que vous reproduisez. « La recherche des vérités arbitraires, spéculatives, des principes, tout ce qui tente à généraliser les idées n'est pas du ressort des femmes. Leurs études doivent se borner toujours à la pratique. »
Voilà.
Alors c'est vrai que les femmes dans la Révolution, pour moi, j'ai deux images. J'ai celle, ces femmes qui, en octobre 1789, marchent sur Versailles et vont chercher le boulanger, la boulangère et le petit Mitron, et qui ramènent donc la famille royale aux Tuileries, près de Paris, pour les surveiller. Mais Marie-Thérèse Mutin, il y a aussi eu des femmes violentes dans des épisodes révolutionnaires.
Ah oui, bien sûr, oui.
Mais les tricoteuses ne devaient pas être si douces que cela,
c'est
les tricoteuses.
Sûr. Oui. Mais c'est vrai, mais elles avaient le droit d'association, qu'elles n'ont plus à partir de 93. Et c'est là où c'est choquant, quoi, pour nous.
Mais elles ne sont effectivement ni électrices, ni éligibles.
Ben, de toute façon, les électrices... Bon, vous savez que c'est en 1946 qu'elles ont eu le droit de vote, donc, ou 44 plutôt. Mais là, Vous savez, il y en a très peu hein, qui sont électeurs. Les paysans ne sont pas électeurs non plus.
Il faudrait peut-être
hein.
expliquer justement.
Ah oui, comment... parce que...
Parce que, en fait, c'est... ça va déçoir aussi beaucoup de citoyens.
Bien sûr,
parce qu'il y a les électeurs actifs.
Oui, il y a les, oui, oui, les actifs et les passifs. Les actifs étant ceux qui payent une certaine somme d'impôts. Qui est très importante. Donc du coup, c'est pour ça que la révolution a été reprise par les bourgeois. Parce que c'est ceux qui avaient la possibilité d'élire les gens. C'est-à-dire les gens qui avaient suffisamment de fortune. C'était le régime censitaire. Hein. Il fallait payer le cens pour pouvoir avoir le droit de vote. Et encore un cens un peu plus grand pour être élu. Donc, il n'y avait pas d'ouvriers, il n'y avait pas de paysans à l'Assemblée, hein, dans les assemblées. Il n'y avait que des bourgeois aisés. Hein. Donc, ça change quand même aussi la donne par rapport à ce que... Hein, c'est pour ça que je dis ainsi vont les rêves. C'est parce qu'on se sert de cette... on se sert des pauvres, quoi, hein, disons, pour faire la révolution. Et puis après, on leur dit, bon, ben, vous restez chez vous. Et puis voilà, hein, nous, on va s'occuper des affaires sérieuses, quoi. C'est un peu ça.
Peut-on dire, Marie-Thérèse Mutin, que la révolution n'a pas eu la fibre sociale ?
Ah ben oui, à cette époque-là, La société n'était pas ce qu'elle est à l'heure actuelle. Hein. La société, c'était les paysans qui avaient une terre qu'on appelait les laboureurs, et puis alors les manouvriers qui n'avaient rien. Hein. Et puis donc, et il y avait très peu, il y avait quelques artisans en ville. Hein. Enfin oui, même dans les campagnes, je veux dire, il y avait les forgerons, le charron, voilà. Mais il n'y avait pas d'usine, il n'y avait pas de personnes qui étaient regroupées ensemble pour travailler. Même en ville, il y avait des petits tisserands, par exemple, qui avaient leur propre métier à tisser et qui dépendaient que du marché, quoi.
Alors comment expliquer le passage de 1789, où le peuple prend en main son destin, et 1793 ? Dérapage de la révolution, violence, menace de guerre civile, guerre révolutionnaire. La France est alors en guerre avec presque tous ses voisins européens. Comment expliquer ce dérapage ? Est-ce qu'on peut l'expliquer en se disant finalement, il y a eu une révolution bourgeoise faite par des personnes, des révolutionnaires qui sont devenus des conservateurs et qui ont dit voilà, c'est bon, c'est fait. Et puis d'autres peut-être qui voulaient aller plus loin.
Oui, bien sûr, il y a toute la difficulté, enfin tout le problème entre les Girondins et les Montagnards hein, à l'Assemblée, à la Convention, que je nomme pas comme ça parce que les Girondins qui étaient les gens qui voulaient un petit peu plus les provinces, plus la
oui, enfin le refus du jacobinisme,
voilà,
du parisianisme politique,
voilà,
en fait.
Voilà, oui. Je pense parce que là, on revient à ça avec Macron en ce moment, oui. Là, qui veut, voilà.
Donc, oui, Michel Onfray parle souvent un petit peu de
volonté de on les appelait pas encore les Girondins, c'était pas encore... Il n'y avait pas encore des groupes comme ça. Les Girondins, ils ont été appelés comme ça par les historiens plus tard. C'est pour ça que je ne prends jamais ce terme-là, moi, dans le livre. Mais voilà, donc il y avait un antagonisme entre les Girondins et les Montagnards, les Girondins qui voulaient un petit peu de pouvoir dans les provinces et les Montagnards qui voulaient le jacobinisme, quoi. D'ailleurs, c'était le club des Jacobins. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle le jacobinisme, c'est-à-dire le pouvoir de l'État central. Et justement, Guillaume, qui lui est parti tout feu, tout flamme avec liberté, égalité, fraternité, revient de Valmy et se retrouve avec deux députés de Côte d'Or, hein, qui s'appellent Prieur, qu'on appelait Prieur de la Côte d'Or, parce qu'il y en avait un dans la Marne qui s'appelait Prieur de la Marne, donc notre Prieur de la Côte d'Or, et puis Guiton de Morvaux, qui étaient tous les deux et qui avaient un appartement en commun à Paris. Ça, c'est vrai, hein, c'est l'histoire, ça. C'est des historiques, ceux-là, hein, ils ne sont pas inventés.
Et Guiton de Morveau, il était membre de l'Académie des sciences.
Oui, il était membre, mais c'était tous les deux des savants. Oui, c'était tous les deux des savants. Et ils ont d'ailleurs beaucoup œuvré pour faire l'école polytechnique. Et prieur de la Côte d'Or pour faire le système métrique. Et donc voilà, ça, ce sont des vrais. Et donc, j'ai imaginé que Guillaume, revenant de Valmy, allait s'arrêter, parce qu'il connaissait prieur de la Côte d'Or, hein, puisque prieur était dans les réunions des Jacobins en Côte d'Or, donc il avait pu y rencontrer les moissonniers que j'ai fait. Et donc, quand il revient de Valmy, il arrive chez les deux députés, et les deux députés sont en train de parler d'un conflit qu'il y a entre Robespierre et un autre député.
En fait, Robespierre est accusé de verser vers la tyrannie.
Voilà, on lui reproche ça. Et Guillaume, lui, ne comprend pas, parce que pour lui, Robespierre et tous les députés, ils étaient républicains, point final. Hein. Il n'imagine pas qu'ils pouvaient être opposés l'un à l'autre. Donc les deux députés de Côte d'Or vont expliquer à Guillaume que c'est pas si simple, qu'il y en a qui veulent, ils veulent augmenter les impôts, certains veulent augmenter les impôts, d'autres ne veulent pas. Et il y a des rivalités comme ça entre les gens qui ont fait la Révolution. Et là, c'est la deuxième désillusion à Guillaume. Là, il tombe des nues, lui. Il voyait ça, un grand bloc, tout le monde était d'accord, tout le monde était beau, tout le monde était gentil, comme on dirait maintenant. Et voilà, et ce n'était pas tout à fait le cas, quoi.
Vous avez d'ailleurs utilisé le terme de bloc. C'est Clémenceau qui parlait du bloc de la Révolution.
Oui,
or,
oui,
finalement,
oui.
Il n'est pas certain que la Révolution fut un bloc.
Non, mais bien sûr que non, ce n'était pas un bloc. Hein.
1789, ainsi vont les rêves, c'est le titre du roman historique de notre invitée, Marie-Thérèse Mutin. Nous nous retrouvons juste après la pause musicale que nous vous offrons. Et je vous rappelle que les ouvrages de Marie-Thérèse Mutin et des auteurs qu'elle édite aux éditions Mutine sont disponibles sur le site, le blog des éditions Mutine via Internet. Nous nous retrouvons dans quelques minutes. We'll be right back.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Marie-Thérèse Mutin, dans votre roman historique, 1789, Ainsi vont les rêves, aux éditions Mutine, donc on a parlé de la condition féminine et de l'injustice faite aux femmes, hein, qu'on n'a pas forcément bien reconnues comme étant les égales des citoyens. Et puis, à un moment, le député de la Côte d'Or, Guiton de Morvaux, rencontrant Guillaume, effectivement, dans une soirée, lui dit « La vie est un perpétuel combat entre ceux qui possèdent les richesses, le pouvoir et ceux qui n'ont rien. Est-ce toujours d'actualité ?»
Oui, 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 je
Alors,
trouve.
Je m'adresse à la militante socialiste, donc je ne prends pas beaucoup de risques avec une telle question.
Non, bien
je suis
sûr.
Pas surpris par la réponse.
Mais bien sûr, oui, on retrouve vraiment, surtout en ce moment, une espèce de bouillonnement inquiétant même, parce que il y a pas de réponse, il y a pas de réponse donnée à tous les questionnements des gens qui ne sont rien, comme disait notre président. Hein. Les gens qui ne sont rien, et dont on s'est aperçu que c'était ces gens-là qui faisaient vivre la nation, hein, avec l'histoire du Covid, eh bien, au moment de la Révolution, ça revient au même, ça revient à ça, quoi. On oublie les paysans, les ouvriers qui se sont battus. Et puis maintenant, on remet le boisseau sur eux, quoi, pour les faire taire.
Alors 1789, on l'a dit, c'est la trilogie républicaine, liberté, égalité, fraternité. Ouais. C'est la création des départements.
Oui,
c'est effectivement l'instauration du système
du
métrique.
Système
il y a enfin une unité. Il y a le français aussi qui est instauré comme langue.
Comme langue, oui. Hein,
là aussi, on essaie de balayer les patois et les régionalismes.
Oui,
ça a été un petit peu autoritaire, le français, langue qui unissait le peuple. Et puis, il y a aussi cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Bien sûr.
17 articles, nouveau catéchisme national.
Oui, tout à fait. Oui, absolument. Oui, cette déclaration des droits de l'homme, c'est pour la famille Moissonnier, c'est vraiment la Bible, quoi. C'est vraiment la chose à laquelle on va se référer sans arrêt. Parce que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Et ça, on l'a un peu oublié, hein.
En tout cas, en 1789, dans cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle omet la condamnation de l'esclavage, l'égalité des sexes, le droit d'asile, le droit d'association et les droits sociaux, notamment le droit de grève. Et
oui.
Là, je pense que c'est intéressant que vous nous en parliez.
Oui, là, en 1791, oui, il y a des choses assez ahurissantes dans cette révolution, parce qu'on a l'impression que tout a été libre, alors que il y a eu des retours en arrière, quoi, parce que en 1791, la loi Le Chapelier interdit le droit de grève et le droit d'association. Si bien que ça va provoquer les drames suivants dans les années suivantes, et notamment au moment de l'industrialisation de la France, hein, dans les années 1830-1840, où les ouvriers vont être quasiment des esclaves, quoi, puisqu'ils n'auront pas le droit de grève, pas le droit d'association, et ils seront soumis à la loi du patron, à la loi complètement sans aucune possibilité de se défendre, quoi. Donc, ils vont être dans une misère épouvantable. Ils vont travailler 14 heures par jour. Les enfants vont travailler aussi. Et tout ça parce qu'ils n'ont pas la possibilité de s'associer. Pour faire changer les choses, ils sont obligés de faire la révolution. Alors, comme dit Anne... Ah ben non, là, j'allais dire... Comme dit Anne Meuse. Mais non, il va le dire dans le livre suivant.
Justement, notre jeune révolutionnaire enthousiaste Guillaume Moissonnier se rappelle d'un seul coup certains propos de son père qui lui avait dit « Tu vois, fils, on peut changer très vite les textes, mais on ne change pas les hommes. Il faudra du temps, de la patience et beaucoup de travail d'éducation pour faire changer les habitudes. » C'est toujours vrai, me semble-t-il.
C'est toujours vrai. Oui, c'est toujours vrai. C'est même de plus en plus vrai parce que je trouve qu'on a oublié pas mal l'éducation. On a l'instruction maintenant, mais on a oublié pas mal l'éducation. C'est-à-dire, je veux dire par là que on n'étudie plus la façon de se comporter en français, par exemple. On n'étudie plus la laïcité. Il y a tout. Et avec les moyens actuels, on n'a plus de débat. Hein, on n'a plus que des invectives quand on regarde sur Facebook ou sur Twitter. C'est plus un débat. Hein, vous avez trois lignes pour invectiver un tel, un tel, un tel. C'est plus un débat. Et donc, je trouve qu'on régresse par rapport à ça, quoi.
Et ce n'est pas rassurant.
Non, ce n'est pas rassurant du tout, non. Je ne sais pas s'il y aura un sursaut pour faire en sorte qu'on réagisse un peu avec un peu de raison, quoi. Il faudrait remettre un petit peu de rationnel dans tout ce qu'on vit à l'heure actuelle.
On va marquer, Marie-Thérèse Mutin, une nouvelle pause musicale. On se quitte sur une note grave. C'est vrai que on pourrait penser finalement qu'il y a un petit peu effervescence populaire, sociale. Est-ce que la France pourrait reconnaître une agitation révolutionnaire?
Oui, mais
le débat d'idées n'est pas là.
Le débat d'idées n'est pas là. Je vous dis, il n'y a plus. Non, je ne sais pas. Moi, je suis un peu atterrée par les discours et la politique menée, quoi.
Et votre camarade Jean-Luc Mélenchon, que vous avez connu au Parti Socialiste, et qui d'ailleurs a été un temps membre des
éditions Mutines.
Est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne souffle pas un peu sur un feu, un brasier un petit peu dangereux aussi?
Moi, je trouve, là, surtout ces derniers jours. Ah oui, c'est un très bon historien.
Ne joue-t-il pas un jeu dangereux?
Mais je trouve que... Moi, j'adore l'écouter quand il parle posément sur une longueur de temps, hein, parce que il a des raisonnements rationnels. Bah, alors, ces dernières positions-là... je trouve que, oui, il souffle sur les braises et je trouve que c'est pas bon parce que, je sais pas, il s'enflamme pour là, là, j'ai entendu encore sur les violences policières, sur ceci, sur cela. Personne ne nie qu'il y a des violences policières, mais enfin, bon, tous les policiers ne sont pas violents, tous les policiers ne sont pas racistes. Bon, et là, je trouve qu'il manque à ça. À sa capacité de rassembleur. Là, il est en train de diviser, et ça, j'aime pas.
Et puis, je rappelle aussi la militante dans l'âme que vous êtes restée, a publié aux éditions Mutines trois opuscules.
Oui, trois petits pamphlets.
Trois petits pamphlets, Manu et Dieu,
gentil,
tome 3,
hein.
Où vous réglez vos comptes avec... Manu,
gentiment,
Manu Macron,
hein, gentiment, oui, oui, Manu, c'est Macron, oui, bien sûr.
Il vous incommode un peu.
Ah, ben
notre
non,
président
ça,
vous
ça,
agace
ah,
et
mais
vous déplaît.
Ça, non seulement il m'agace, mais il me fait peur.
Pourquoi donc?
Ben, il fait peur parce que alors lui, il n'a aucune ligne politique. Il nous emmène, en plus, il a eu des propos. Moi, c'est ça qui m'a fait écrire ça. Quand il déclare, il y a les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Ça me hérisse profondément, ceux qui ne sont rien. Alors maintenant, il est en train de revenir, hein, parce que c'est un bon comédien, lui. Hein. Il vous vend n'importe quoi, un bon camelot. Hein. Là, maintenant, il va changer, il va nous changer tout. Qui peut y croire? Mais qui peut y croire?
Lui-même se remet en question.
Oui, ben, il se remet en question, oui. Enfin bon, moi, j'y crois pas. Hein. J'y crois pas un seul instant. D'abord, il a été élu par des gens qui veulent qu'il mène cette politique libérale, et il va l'amener jusqu'au bout, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il a été élu par les banquiers, les patrons et tout ça, il ne va pas leur faire de mal. Et voilà, donc je ne vois pas comment il va s'occuper de ceux qui ne sont rien. Et cependant, il s'est rendu compte que ceux qui ne sont rien, ceux qui ne réussissent pas, c'est ceux qui nous ont sauvés pendant le confinement, hein. C'est les infirmiers, les infirmières, les aides-soignantes, les caissières, tous ceux qui ne plaisent pas à Macron, quoi.
Et pendant ce temps, le Rassemblement national en embuscade.
Ah ben évidemment, évidemment. Quand on entend que Macron, il est là, c'est lui ou Marine Le Pen, et que c'est un rempart contre Marine Le Pen, je ne crois pas. C'est justement lui qui fait monter Marine Le Pen à chaque fois, à chaque fois.
Mais vous savez bien aussi que François Mitterrand avait fait monter un peu le FN oui. pour grignoter et faire perdre la droite.
Oui, oui, on a dit, oui, oui.
Machiavélique François Mitterrand, que vous avez rencontré, que vous avez connu.
Bien sûr, j'ai connu, oui, j'ai connu, oui, bien sûr. Mais c'est pas la même dimension. C'est pas la même dimension. Parce que je ne suis même pas sûre que Macron se rend compte qu'il nous emmène dans les bras du Rassemblement national. Je ne suis pas sûre qu'il en ait conscience. C'est ça le pire. Mais pour autant, c'est vrai que... Bon, ça, c'est bien à cause de la gauche qui est complètement déliquescente en ce moment. Hein, j'espère qu'elle va se reprendre. Mais c'est vrai que... Non, je suis assez pessimiste pour l'avenir.
Ainsi vont les rêves.
Eh oui,
1789, c'est voilà. Le titre du dernier roman de Marie-Thérèse Mutin. On fait une dernière pause musicale et puis viendra le moment de conclure.
L'aube fend le ciel et soupire. Dans l'aurore, je suis à l'ouest. Perdu dans un désert de soir. Perdu dans le désert de tes traces, terre aride de caresses. Tell me how did you get into this mess. J'ai griffé, j'ai filé.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Dernière partie de notre émission littéraire avec Marie-Thérèse Mutin qui signe aux éditions Mutine un roman historique dont je rappelle le titre 1789, Ainsi vont les rêves. Juste avant la pause musicale, nous avons donné la parole à Marie-Thérèse Mutin qui a pu s'agacer contre notre président de la République. Mais comme je le disais hors micro, impossible qu'il n'y ait pas un petit volet politique quand on reçoit la farouche Marie-Thérèse Mutin, que j'apprécie tout particulièrement. Et j'aime bien, elle est très fougueuse, hein, un peu comme ces femmes, sans doute, de 1789. Marie-Thérèse Mutin, il y a un article que vous reproduisez dans la nouvelle déclaration des droits et devoirs, donc justement qui annihilait les droits sociaux du peuple. Alors, vous l'aviez dit, le droit de l'insurrection a été remplacé par un article prônant justement la soumission. Et voici, je le lis puisque vous l'avez reproduit dans votre roman. « Nul n'est bon citoyen s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux. » C'est très moralisateur.
Ah ben oui. Oui, entre 1793 et cela, c'est vrai qu'il y a un précipice entre les deux. Oui, et ça, c'est vrai que le changement est brutal.
Vous avez, parmi les différents épisodes de ce roman, quel est celui qui vous a le plus donné d'enthousiasme d'écriture? Est-ce que c'est la bataille de Valmy à laquelle participe votre héros? Est-ce que c'est le Paris de l'été 1789 où il y a différents orateurs montés sur des tables et qui haranguent la foule? Qu'est-ce qui vous a mis le plus en joie? Quelles sont les scènes que vous... Est-ce que vous aimez ces petites scènes rustiques de famille ou...
Oui, c'est peut-être les dernières scènes. C'est peut-être l'attaque de la femme de Guillaume par les Muscadins et les Merveilleuses. Enfin, les Muscadins, parce que les Merveilleuses sont
c'est-à-dire,
les femmes.
C'est-à-dire, en fait, on va dire, ce sont des jeunes des gens qui se distinguaient par une mise vestimentaire particulière et qui surtout étaient royalistes, le retour de la royauté
en France. Exactement. Et ils s'attaquent à Anne parce qu'ils ont reconnu en elle l'ancienne présidente de l'Assemblée de l'égalité. Et là, j'ai beaucoup aimé cette scène parce que j'ai mis en place, elle est attaquée sur la place des Cordeliers et elle est défendue par les artisans et par les femmes qui viennent après coup pour la défendre et qui la ramènent chez elle. Et là, ça m'a plu de... je me suis un peu mise à sa place, quoi. Et elle est très reconnaissante à ces femmes. Et les femmes lui répondent « Mais on t'a reconnue ?» On sait ce que tu as fait pour nous quand tu étais présidente. Et donc, j'ai trouvé que c'est ça qui m'a plu dans cette écriture-là, quoi, de rendre cet hommage de solidarité féminine. Quoi.
Alors, le héros reste Guillaume Moissonnier, ce jeune originaire du village de Cessé-sur-Ty, qui va donc connaître les journées révolutionnaires dijonnaises dans un premier temps, qui se retrouve à Paris, qui, parce qu'il est instruit, quand bien même il est d'un milieu très modeste, famille de laboureurs pauvres, il devient typographe, puis journaliste, il devient combattant, l'épisode glorieux de la victoire de Valmy, dont une peinture hyper connue est reproduite sur la couverture de votre roman. C'est un tableau de Jean-Baptiste Moses. Et c'est aussi le parcours d'un provincial qui va connaître un temps la vie parisienne et qui choisit de revenir ensuite à Paris.
Oui, il choisit de revenir.
C'est un rural qui va devenir citadin et qui finalement,
ayant perdu
ses illusions et effectivement affolé par le climat révolutionnaire, la terreur Paris, choisit le retour à la campagne. C'est presque encore actuel.
C'est pas
ça.
La terreur qui lui fait peur, c'est les Muscadins, c'est la reprise des royalistes. Et là, il sent sa femme et ses enfants en danger parce que justement, ils ont été dans la révolution et que c'est la réaction qui arrive avec le directoire et tout ça. Et du coup, il est affolé. Il se dit, alors son père est mort, sa mère est toute seule avec ses sœurs à Cessé, donc il a peur pour elle parce qu'il y a des vagabonds qui sont des misérables qui attaquent aussi dans les campagnes. Et donc il demande. Et puis là, il y a aussi le dialogue entre la femme et sa femme et lui, pour dire, et ils ont pensé tous les deux que la sagesse faisait qu'il valait mieux qu'ils reviennent à Cessé pour s'occuper des terres plutôt que de continuer une révolution qui était morte, quoi.
Avant-dernière phrase de votre roman, Guillaume a tutoyé les étoiles. Il revient au village, les pieds dans la glaise. Pourrait-on écrire « Marie-Thérèse Mutin a tutoyé les étoiles, elle revient au village de Cessé, les pieds dans la glaise et les mains dans les éditions Mutines ». C'est un peu cela, parce
c'est
que,
un peu ça,
comme je
oui.
vous l'ai dit, les désillusions du jeune homme me semblent se superposer avec les désillusions de Marie-Thérèse Mutin à l'égard d'une politique socialiste qui n'est pas allée jusqu'au bout de ce qu'elle avait promis.
Exactement, oui, 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 c'est un peu cela, c'est un peu ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu montrer combien les dirigeants pouvaient se servir de la ferveur de militants, hein, puisque
militants
pour arriver au pouvoir, et puis après, bon, ben, restez dans vos campagnes, et nous, on s'occupe de vous faire des lois qui ne sont pas toujours ce qu'on espérait, quoi.
Je rappelle le titre de notre invitée, la camarade Marie-Thérèse Mutin. Petite taquinerie,
oui,
Marie-Thérèse.
Oui.
1789, Ainsi vont les rêves, aux éditions Mutine. Si on souhaite se procurer le roman ou l'offrir à quelqu'un, on va sur le blog, le site des éditions Mutine, qu'on trouve très facilement via Internet. Marie-Thérèse, grand plaisir de vous avoir une fois de plus accueillie
Merci.
Devant le micro de Wagon Livre. Bel été, je rappelle qu'aujourd'hui, samedi 20 juin, c'est le premier jour de l'été. Donc bel été à vous, Marie-Thérèse, à nos auditrices
Merci.
Et auditeurs qui nous suivent fidèlement. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h. Sur quelle radio, Marie-Thérèse ?
Sur Radion.
Bravo. Radion 90.5 dans Lyon, ou alors sur radion.fr aux quatre coins de la Bourgogne, de France.
Voilà.
Pourquoi pas de l'Europe.
Et
puis les podcasts, yannickpetit.fr. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Merci Marie-Thérèse.
Merci.
Au revoir.
Yannick.
Et à la semaine prochaine.
Au revoir.